Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, d'abord, ce matin. Nous sommes toujours en 2018, l'année du cinquantenaire de la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le chef-d'œuvre, évidemment, de Stanley Kubrick. En une heure, avec nos trois intervenants ici présents que je vais présenter, on va aborder quelques-unes, forcément on ne sera pas exhaustif, des révolutions de ce film, absolument incroyable, sur lequel le temps n'a absolument aucune prise. Et donc ces révolutions narratives, visuelles, par l'utilisation de la musique, notamment, du son, des dialogues, ou plutôt même l'absence de dialogue. Et donc, pour parler de tout ça, j'ai à mes côtés trois immenses spécialistes. Donc, à ma droite, Marc Caro. Marc, bon, évidemment, vous êtes co-réalisateur de Délicatessen et de La Cité des Enfants Perdus avec Jean-Pierre Jeunet. Vous avez officié dans un passé pas si reculé pour la revue Métal Hurlant. Vous avez réalisé le long métrage tout seul Dante 01, qui doit pas mal quand même à l'œuvre de Kubrick, je pense. Et vous avez également réalisé un documentaire sur les robots au Japon. Je ne l'ai pas vu celui-là. Et voilà, vous êtes spécialiste de musique électronique également. Et vous avez officié à la direction artistique des films Alien Resurrection de Blueberry et également Enter the Void de Gaspard Noé. À votre gauche, Olivier Cotte. Alors, Olivier Cotte, vous êtes scénariste de bande dessinée, historien du cinéma. On vous doit, entre autres, les bandes dessinées Le Futuriste, L'Ultime Défi de Sherlock Holmes, L'Épouvantail et Le Lendemain du Monde. Et alors, pour le cinéma, la méthode Écrire pour le cinéma et une encyclopédie du film d'animation, 100 ans de cinéma d'animation, qui a été publiée en 2015. Et enfin, Hervé Delahaye. Alors, vous êtes chercheur indépendant dans les domaines du dessin animé, de la musique, pour le cinéma et la télévision. Vous avez publié sur votre blog des articles consacrés à la musique du docteur Mabuse ou aux différentes éditions d'Albator. Et alors, en 2015, vous avez réalisé un exploit. C'est-à-dire, vous avez retrouvé la version française de l'épisode pilote d'Ulysse 31. C'est bien ça, c'est pas de bêtises. C'est exact. Est-ce que votre micro marche pour commencer? Ça serait bien.
Celui-ci... Est-ce que celui-ci fonctionne? Oui.
Et vous êtes également compositeur.
C'est exact.
Alors, juste avant de commencer cet échange, je voulais juste savoir qui dans ce public n'a jamais vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce sera peut-être plus vite. Il y a une personne là-bas qui va sortir. Merci.
Non, on peut aussi commencer tout de suite par raconter la fin du film pour que tout le monde soit à l'aise.
C'est ça, tout le monde meurt à la fin.
Alors, voilà. Non, mais à la fin c'est très simple. Il arrive sur une espèce de...
Ça suffit.
Il se voit lui-même en train de manger.
C'est le jardinier qui a tué...
Est-ce que la sécurité peut embarquer l'un des intervenants?
Alors, il se voit lui-même plus avec vieux, allongé dans un lit.
Merci beaucoup. Merci.
Et puis il devient un fœtus, et puis là, le fœtus flotte dans l'espace.
Voilà, bon, ben, désolé pour vous, hein, monsieur. Donc, tout le monde a vu 2001, a priori, donc on va pouvoir raconter la fin sans problème. J'étais curieux de savoir, donc pour vous, messieurs, avant qu'on aille un peu plus loin dans le décryptage du film, quand avez-vous vu 2001 pour la première fois, et qu'est-ce que ce film a profondément bouleversé chez vous, Marc? Est-ce que vous vous rappelez?
Oui, très bien. C'était un choc. J'étais beau, jeune, avec de longs cheveux à l'époque. Et,
il n'y a pas si longtemps.
Voilà. Non, c'était... je pense que c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Clairement, c'était quand c'est sorti en France, en 68.
Vous l'avez vu l'année de sa sortie?
Voilà. Ouais. Voilà, après... voilà ce que ça donne 50 ans après.
Est-ce que vous l'avez revu beaucoup?
Je le vois très, très souvent là. Je l'ai vu lors de le dernier rechoc du visionnage de 2001, c'est quand ils l'ont ressorti il y a quelques années en 70 mm. Et le voir dans son format original était vraiment une expérience incroyable, quoi.
Olivier, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première fois avec 2001?
Ah, toute première fois, c'est inoubliable. Oui, je devais avoir à peu près 9 ou 10 ans. Alors, ça a été effectivement, bon, comme pour Marc, un choc. Ce qui est important, c'est que je l'ai vu, en fait, avant qu'il y ait le renouveau du cinéma de science-fiction qui a commencé avec Star Wars. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'avis négatifs sur Star Wars. Parce que, bon, après 2001, finalement, la barre est tellement haute en termes de contenu, en termes de dépaysement et d'inventivité de mise en scène que un retour à un classicisme, évidemment, est très, très peu apprécié, quoi.
Bah, surtout le propos, oui. Ce que raconte 2001 est quand même absolument incroyable au niveau narratif et la manière dont c'est fait, c'est absolument...
Mais ce qui est certain, c'est qu'avec avec 2001, c'est un film où on comprend, même si on est très jeune, on comprend que la mise en scène, ça fait le film. Il y a le scénario, certes, je ne veux pas dire le contraire, vu que c'est mon boulot, mais en même temps, c'est la forme qui fabrique le fond dans 2001. Et ça, c'est la plus belle leçon, à mon avis, que le film peut offrir.
Je trouve que c'est une excellente formule. La forme, en effet, fabrique le fond dans ce film. Et d'ailleurs, Kubrick était obsédé par l'idée d'à chaque fois révolutionner la forme. Je me rappelle d'un documentaire sur 2001 où Spielberg expliquait que dans les dernières années de sa vie, Kubrick lui disait souvent qu'il rêvait de faire à nouveau un film où il bouleverserait la forme, un film qui changerait la forme. Et Spielberg lui répondait, mais tu l'as déjà fait avec 2001. Donc voilà. Hervé, donc votre première fois avec 2001, c'était où, quand,
alors,
quel âge?
J'avais 12 ans, et moi la première fois que j'ai vu 2001, c'était à la télévision, sur un écran de petite taille. Je me rappelle, le film m'avait vraiment laissé perplexe. Surtout, j'ai éprouvé un besoin irrépressible d'en parler après, parce que j'ai eu cette impression que beaucoup de gens peuvent avoir après une première vision de 2001, l'impression de ne pas avoir très bien compris ce que j'avais vu. Ça ne me gênait pas plus que ça, mais il fallait pouvoir en discuter. Donc j'en ai discuté, en l'occurrence avec mes parents à l'époque, et puis plus tard avec d'autres amis. Et puis les mois passant, il est devenu nécessaire de revoir le film. Donc là, je me rappelle l'avoir attendu pendant un certain temps que le film repasse à la télévision pour le revoir. Voilà, je l'ai découvert ensuite au cinéma sur le grand écran, mais beaucoup plus tard, 10 ans après à peu près.
C'est ça qui est absolument incroyable avec ce film, c'est que chaque vision est une nouvelle expérience du film, finalement.
Nouvelle expérience, je ne sais pas, mais en tout cas, à partir du moment où on apprécie le film, et c'est un film que tout le monde n'apprécie pas, j'ai eu des discussions difficiles à propos de ce film avec mon meilleur ami qui m'a dit « Oui, mais tu sais, moi, quand même, ce que j'aime dans un film, c'est qu'on me raconte une histoire. » Il avait l'impression que le film ne racontait rien, et je peux comprendre pourquoi il avait cette impression-là. À partir du moment où on apprécie le film, il y a un processus qui se met en place et où, pendant un certain temps, on a besoin de le revoir parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qu'il faut éclaircir. Et ça ne fonctionne jamais totalement, d'ailleurs. Chaque nouvelle vision n'éclaircit pas tout.
Alors ça, moi, ça m'a toujours étonné qu'on se pose le problème. Je pense que quelque chose qui est très important et moi que j'ai fait assez rapidement après avoir vu le film, comme ça, qui a été un... vraiment quelque chose qui m'a extrêmement impressionné, surtout qu'à l'époque, je sais pas, il y avait 5 minutes de noir dans lequel on entendait du Ligeti, tout ça.
Oui, 2 minutes c'était avec atmosphère.
Voilà, c'était quand même une manière d'appréhender un film. Normalement, on rentre tout de suite dans l'action et tout ça. C'est qu'il y a un complément qui a été écrit en même temps, hein, qui est le roman d'Arthur C. Clarke. Qui est très explicatif finalement.
Beaucoup
autant moi j'apprécie
film.
Énormément ce film parce que justement, comme le disait je ne sais plus qui, l'art n'a pas à se prostituer par l'explication. Là, vous avez un mode d'emploi presque parce que quand on lit le roman de Clarke,
toutes les explications sont apportées.
C'est très clair. Il n'y a pas tellement de points de mystérieux. Bon, à la fin, qui se mutationne, il y a cette transmutation dans l'enfant des étoiles qui même fait exploser. On lui tire dans le roman, on lui tire carrément des missiles dessus, puis il fait tout disparaître, et puis il dit oh, je vais trouver la solution, je vais avoir une idée. Ça se termine comme ça, le roman. Donc là, le parti pris qu'a pris vraiment Stanley Kubrick de ne pas expliquer, de juste montrer, parce que c'est ça le cinéma, on montre avec des images qui sont absolument sublimes et puis une bande-son qui est incroyable, qui je pense presque dans son esprit, moi c'est comme ça que je le ressens, a précédé, a servi au découpage du film. Les plans sont faits en fonction des musiques.
Olivier ?
Oui, je reviens sur l'aspect narratif de 2001. Parce qu'en fait, ce que Kubrick disait qu'il voulait avec 2001 faire une symphonie visuelle. C'est-à-dire que là, on se retrouve... Bon, j'aime beaucoup le cinéma expérimental qui n'a pas forcément besoin d'une ligne narrative, puisque finalement, on peut avoir un spectacle audiovisuel ou même simplement visuel qui se suffit en lui-même. Kubrick, qui avait une très grande culture cinéma, s'est très largement inspiré de l'expérimentation cinématographique et il a développé sur une durée très longue un film qui est clairement un film expérimental. Et c'est là où en fait, c'est intéressant quand il utilise le terme de symphonie, parce qu'il y a des arts qui sont davantage narratifs que d'autres. La musique, par exemple, par l'absence en fait, de syntaxe et de vocabulaire, n'est pas un art à proprement parler narratif, contrairement au langage et même dans l'absolu aux arts visuels. Mais du coup, lui a voulu volontairement faire une sorte d'abstraction, c'est-à-dire enlever un aspect narratif trop direct, de manière à permettre aux spectateurs de passer de l'autre côté et de recevoir des informations et un message de façon plus sensorielle. Ça me paraît vraiment capital de comprendre ça dans 2001, parce que c'est finalement c'est une piste qui n'est pas tellement exploré dans le cinéma pour plein de raisons, évidemment, à commencer pour des raisons purement commerciales.
Alors, en effet, il y a cet incroyable prologue dans le noir absolu qui dure à peu près 3 minutes ou un petit peu moins.
Oui, 2 minutes avec la musique de
Ligeti,
avec l'atmosphère de Ligeti, de manière à ce qu'en fait, et c'est très malin, à ce que, comme quand on veut faire de l'astronomie, on ferme un peu d'abord les yeux, parce que sinon, au départ, on voit très peu d'étoiles dans le ciel, et Kubrick voulait vraiment mettre une antichambre, quoi, un prologue, mais quelque chose qui permette de casser la vie ordinaire, de plonger le spectateur dans un état de réceptivité et en même temps de permettre physiquement d'ouvrir ses pupilles pour pouvoir immédiatement être transporté dans le noir de l'espace et avoir ce début absolument fracassant avec la conjonction planétaire.
Voilà.
Ouais, je vais voir si je ne suis pas totalement nul en technique. Je vais tenter de lancer le générique du film. Je ne sais pas si ça se... Ça replonge tout de suite dans l'ambiance.
Je vais faire deux, trois remarques par rapport à ce début. D'abord, si on met de côté le Spartacus, en fait, Kubrick a très, très peu utilisé d'écran large dans ses films. Même on a quelquefois des faux souvenirs, comme par exemple, on imagine que Shining est en écran large, alors que non, c'est du format 1.66. Ou que Barry Lyndon est également en écran large, mais non, c'était même impossible parce qu'il voulait émuler la peinture du XVIIIe siècle et il n'y a pas de peinture d'un format aussi panoramique en fait, dans la culture picturale de ce siècle. 2001, par contre, c'est le contre-exemple. C'est que là, ça a été tourné en 65 pour une exploitation en 70 avec 6 pistes magnétiques pour la qualité sonore. Et
en pellicule 65 mm.
Donc oui, pellicule 65, donc de tournage pour une exploitation en 70. Hein. Et là, il y avait une obligation d'occuper l'espace visuel et donc d'élargir le cadre. Mais même comme ça, parce que ce sont des formats très délicats à utiliser, parce que dès qu'on commence à cadrer, on se retrouve très rapidement avec « bon, c'est gentil, mais qu'est-ce que je fous dans les bords ?» Qu'est-ce que je mets sur les côtés? C'est très difficile de faire des cadres intéressants avec des formats assez larges. Et alors là, en plus, on se retrouve avec cette ouverture où on est quasiment sur un fond totalement noir, mais il utilise une de ces structures graphiques récurrentes dans toute sa production, qui est en fait la symétrie. Il centre. Il y a chez lui souvent énormément de couloirs ou alors de travail sur l'architecture ou même tout simplement sur la mise en scène des personnages. Et là, pour en plus vraiment marquer la mécanique céleste, le fait qu'il y ait un ordre, on a, et puis évidemment parce que bon, ça aide à mettre en place la conjonction, on est vraiment dans un cadre qui, on pourrait le retourner, le couper en deux, le retourner, on est dans une symétrie quasi totale.
Le cercle, c'est la symétrie totale. Hein, donc.
Et en effet, il y a cette trinité, cette trilogie de cercles dès ce premier plan d'ouverture avec la Lune, puis la Terre, puis le Soleil derrière. Et donc cette ouverture musicale, mais fracassante, qui est une sorte de contre-pied total par rapport aux 2 minutes 50 qu'on a eu de noir complet sur ce morceau extrêmement énigmatique de Ligeti. Hervé, c'est vraiment il y a une intention clairement là de Kubrick avec le choix de ce morceau ainsi par les Zarathustra de Strauss.
Alors oui, aujourd'hui c'est peut-être un petit peu difficile de s'en rendre compte parce que c'est un morceau qui a été beaucoup réutilisé depuis 2001, mais à l'époque ça fait pas du tout partie des classiques populaires. C'est un morceau qui a quasiment pas été utilisé au cinéma auparavant. Et Kubrick d'ailleurs a cherché longtemps un morceau qui répondrait à un cahier des charges très précis, c'est-à-dire relativement court, grandiose et avec une fin très nette, parce qu'il ne voulait pas utiliser un morceau classique plus long à la fin duquel il aurait appliqué un fondu parce qu'il faut que ça se termine. Il voulait qu'il y ait une fin très, 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 très nette qui soit écrite dans la musique. Il a cherché ce morceau pendant longtemps, il a confié à son beau-frère la mission de trouver un morceau qui répondrait à ces critères-là. Et puis son beau-frère passe en revue toute sa collection de disques et lui dit « Écoute, voilà, moi j'ai trouvé ça, est-ce que ça te convient ?» Et le générique ensuite est conçu graphiquement pour coller sur cette musique qu'il a longtemps cherchée.
Faut aussi imaginer qu'à l'époque, maintenant on est habitué à du gros son, à du 5-1, à vraiment une immersion sonore, tout ça, mais à l'époque c'était pas le cas. Hein. Le Dolby, SR, le THX et tout ça n'existait pas encore. Et donc ce travail, comme tu le disais tout à l'heure, sensoriel sur le son, les basses qu'il y a poussées à fond comme ça, qui immergent complètement le spectateur dans un autre univers, dans l'espace, dans des choses comme ça, est vraiment une première hein, à l'époque. C'est vrai que c'est absolument incroyable. Quoi.
On est ensuite, juste après ce générique d'ouverture absolument inoubliable de 2001, on est après dans un autre contre-pied qui est donc de nous projeter des centaines de milliers d'années en arrière, alors peut-être même des millions d'années. Le carton d'ouverture du film, du premier chapitre du film, puisque le film est divisé en quatre chapitres distincts, le premier chapitre, c'est l'aube de l'humanité. On ne sait pas trop le situer d'ailleurs. Hein. Enfin, je ne crois pas que Kubrick ait donné d'indications précises.
Dans le roman, je crois que c'est 3 millions hein, d'années.
3 millions ouais. d'années. 3, 4 millions, ouais. Et donc, nous assistons à l'évolution de cette troupe d'hominidés qui va être visitée à partir de la 12e minute du film pour la première fois par ce curieux monolithe qui incarne à lui seul tout le mystère du film. Il reviendra quatre fois, à quatre reprises d'ailleurs, ce monolithe dans le film. Sur ce visuel, par exemple, Marc, que vous inspire la façon dont Kubrick justement filme ce monolithe et la façon dont il met en scène toute l'énigme du monolithe?
Alors, ils ont énormément tourné autour hein, avant de trouver.
Oui, ça a été l'objet de, voilà, de ils ont, très nombreuses discussions.
Voilà,
ils n'étaient pas souvent d'accord, lui et Clark. Hein,
voilà, tout à fait. D'ailleurs, dans le roman, le monolithe n'est pas du tout comme ça. Il est transparent. Et c'est Kubrick qui a dit : mais attends, qu'est-ce que je filme un truc transparent ? On ne va rien voir.
Ils ont essayé de le faire transparent et ça ne fonctionnait pas.
C'était vraiment... Et en plus, problème. Ça n'a pas du tout la même fonctionnalité. Dans le roman aussi, c'est presque un écran. C'est presque un écran plat avec des choses qui apparaissent dedans et qui sont transmises. C'est comme il y a une transmission. Là, la transmission, elle est plus abstraite. Hein. C'est vraiment, il touche, mais on ne voit pas ce que la communication qu'émet le monolithe, comme ça. Il y a clairement, là aussi, son amour de l'abstraction. Hein. Ce genre de monolithe noir, là on était dans des orbes, dans des orbites, des choses rondes et tout ça, et on a cette chose-là qui amène la connaissance aux hommes singes.
Des formules mathématiques, en fait.
Voilà, des formules mathématiques, mais direct, c'est presque de la télépathie.
Et toujours sans la moindre explication, c'est-à-dire qu'on tout passe à chaque fois par l'image, le son, le geste de ce singe qui va toucher le monolithe, et donc acquérir le savoir. C'est vraiment, là aussi, c'est quelque chose d'unique. Ça n'avait jamais été fait avant 2001, ce mode de narration.
On ne peut pas dire ça, parce que le cinéma muet a eu un mode de narration complètement visuel. Hein. Il n'y avait pas de son, ou alors accompagné par du piano, des choses comme ça. Mais le fait... Moi, ce que je trouve qui est le plus fantastique avec ce film-là, c'est que c'est des thématiques... presque philosophiques, voire métaphysiques, qui sont et des choses aussi qui nous engagent dans nos rapports avec la technologie, tout ça, tout ce qui va se passer après avec HAL et compagnie, c'est vraiment c'est pas des sujets triviaux, quoi. C'est vraiment des sujets assez subtils et il arrive à le faire passer uniquement par des images et un travail absolument extraordinaire d'osmose entre le son. C'est pour ça que moi je dis, comme tu disais, c'était une symphonie. Visuel, quoi. Et l'image, hein, c'est vraiment, ça a été écrit, les deux sont intimement intriqués, quoi.
Olivier,
je vais vous parler de mon chien. Non, mais sans rire, parce que
c'est un grand amateur. C'est lui qui allume, il vient le soir, il allume.
Il est pour regarder en douce régulièrement.
Mais en fait, il adore 2001.
Non,
mais
ah oui, d'accord, c'est même pas une blague.
C'est-à-dire que non, mais c'est vraiment pas une boutade. Même pas une boutade de Dijon, c'est que je n'ai jamais vu...
Une pause sur cette magnifique blague.
Pause, oui.
Vous serez pas venu pour
applaudissements,
rien.
Merci. Donc, en fait, je n'ai jamais... je l'avais jamais vu comme ça, mais il est devenu complètement fou quand il a vu 2001 pour la première fois, lui aussi, s'en rappelle. C'est-à-dire que sur cette séquence...
Je peux t'expliquer pourquoi. C'est qu'il y a beaucoup d'os au début.
Alors oui,
il est avec des autres, il voit des autres voler comme ça. Et tu comprends qu'un chien ne peut pas résister à l'appel de l'os.
Alors voilà, surtout volant. D'ailleurs, ils s'en désintéressent après le raccord. Mais par contre, non, en fait, c'est le son. C'est que le son des proto-humains, des hominidés, est d'un réalisme absolu, et le son de l'environnement, les effets sonores environnementaux sont extrêmement réalistes. J'avais pas vu l'animal réagir comme ça devant un film, et pourtant, bon, des environnements naturels, il y en a plein dans le cinéma. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau du son, et le son est une passerelle merveilleuse dans le cinéma, parce que notamment quand on se retrouve devant une image qui peut avoir un caractère énigmatique ou qui a un décalage par rapport à notre perception. C'est typique, par exemple, dans le cinéma d'animation, dans lequel l'image est clairement fausse, fabriquée de toutes pièces. C'est le son qui nous permet de créer un lien, un pont de perception entre nous et une image onirique, ou en tout cas qui n'est pas naturaliste, ou qui n'est pas de notre univers.
Je voudrais ajouter une chose sur... le mode de narration du film, et en particulier de son début, finalement, le film est beaucoup plus balisé qu'il n'en a l'air. Il y a des choses qui nous déroutent à l'image et qui nous font oublier que Kubrick nous prend par la main quand même. Le générique d'ouverture qui nous montre ce lever de soleil, est suivi par un premier carton qui porte le titre du premier chapitre du film « L'aube de l'humanité ». Aube, donc on est de nouveau dans un lever de soleil, donc déjà les choses sont martelées. Et donc qu'est-ce que c'est que l'aube de l'humanité ? Ça va être la naissance, l'émergence de l'intelligence. Ce titre nous l'annonce et c'est ce qu'on voit se produire à l'écran ensuite. Donc certes, il n'y a pas de dialogue, mais les hominidés ne dialoguent pas, en tout cas pas en anglais entre eux, c'est tout à fait logique. Mais ce premier carton nous a annoncé ce qu'on allait voir, on le voit. Finalement, il n'y a pas tant de mystère que ça, simplement, il y a une certaine lenteur dans les choses qui se passent qui nous fait oublier que Kubrick a annoncé son programme.
Je suis passé directement à la deuxième partie du film, mais juste avant quand même un mot sur cette incroyable...
Oui, je pensais qu'on allait voir quand même le raccord de l'os satellisé qui est une merveille absolue.
J'y viens justement. Alors, bon, j'ai pas réussi à sélectionner l'extrait, mais justement... Ce raccord est complètement incroyable, sans précédent, là aussi.
En fait, il est totalement logique dans le sens où c'est un raccord d'idées, c'est-à-dire on part d'un outil et on a un outil immédiatement après. C'est un raccord de forme, chaque fois avec un objet long et en plus d'une couleur à peu près similaire, c'est-à-dire blanc. Et puis on a un raccord de mouvement. Donc les grandes règles du raccord sont là, sauf que ce qui est extraordinaire... c'est l'ellipse temporelle que ce simple raccord nous autorise. Et là, on est vraiment... Le montage est magnifique dans 2001, mais là, on est dans l'essence même du cinéma, parce que finalement, si on devait retenir quelque chose du cinéma par rapport à la littérature, par rapport au théâtre, c'est que l'unité de temps et de lieu théâtral, on peut l'oublier. De la même façon, dans le roman, il est assez... On est dans une... narration, mais la narration, finalement, on la commande parce qu'on est dans la lecture, donc on prend le temps que l'on veut pour lire, faire des pauses, etc. Le cinéma, l'essence du cinéma, elle réside dans le montage. Et ça, on le sait depuis le cinéma muet, hein, parce que c'est à partir de, notamment des Russes à la fin des années 10 que vraiment toutes les écoles ont été développées. Et c'est
oui,
là
il y a eu même
réside...
des expériences qui ont été faites. Tu sais, avec vous mettez un visage qui a la même expression à côté, vous montez un visage d'enfant qui rit. Vous avez l'impression que l'autre est joyeux. Voilà, tout à fait. Et si c'est un enfant qui pleure, vous avez une interprétation complètement différente de l'expression du plan précédent. Donc,
Je voulais ajouter quelque chose sur ce fameux raccord où donc l'hominidé lance en l'air un os qui, au plan suivant, devient une navette. On a tendance à considérer, enfin naturellement, qu'à ce moment-là, il y a une deuxième partie du film qui commence. On peut aussi voir les choses différemment. Il y a eu un carton au début qui nous a dit « l'aube de l'humanité ». Puis à un moment donné, raconter l'aube de l'humanité, c'est quand même très très long, donc on va gagner du temps. On va passer aux vaisseaux spatiaux, mais c'est toujours l'aube de l'humanité.
C'est vrai, il n'y a pas de deuxième carton.
On n'a pas changé de lieu, c'est toujours grosso modo la planète Terre, c'est toujours la même espèce. Ils ont un peu évolué, mais enfin, ils ne sont toujours pas très très malins. Et pour qu'ils évoluent de nouveau, il faut qu'il y ait une deuxième rencontre avec ce monolithe, avec ces entités. Tant que cette rencontre n'a pas eu lieu, on est toujours... dans les balbutiements de l'intelligence. Et ce fameux raccord, c'est aussi ça qu'il nous dit. C'est le premier outil, cet os, la première navette, c'est la même chose. L'homme n'a pas changé.
Alors, cette séquence introductive d'un deuxième temps dans le film, même s'il n'y a pas de carton pour nous la signaler, en effet, elle décrit donc la... Donc, on passe directement de l'aube de l'humanité au 21e siècle. Et donc la séquence qui dure au moins 5 minutes, et c'est long, c'est très très long. Kubrick à chaque fois vraiment prend son temps dans toutes ces scènes de vols spatiaux. Et donc cette scène décrit la très lente approche d'une navette commerciale de la compagnie Pan Am, qui existait à l'époque, qui était une compagnie aérienne américaine qui n'existe plus aujourd'hui. Donc la scène décrit l'approche de cette navette vers la station spatiale, une station spatiale internationale qui a une forme de grande roue. Cette navette convoie le docteur Heywood Floyd, qui est l'un des personnages principaux du film. Et donc, tout ce mouvement d'approche de la navette vers la grande roue est cadencé par l'inoubliable morceau valse de Johann Strauss, Le Beau Danube Bleu. Là aussi, en quoi, en termes de mise en scène, le choix de ce morceau s'explique? Il y a certainement des explications analytiques, mais techniquement, il y a peut-être également aussi des raisons au choix de cette valse et du rythme de cette valse pour accompagner les vaisseaux.
C'était ainsi par les Zarathustra, c'était donc Strauss, le père, et là, voilà, Richard, et là, c'était le fils.
Non, ils n'ont pas de lien, attention.
Ils ont dû lui faire un prix.
Oui. les raisons de ce choix, on est dans la génétique du film, on peut en parler longtemps. Ça n'a pas été le premier morceau qui a été utilisé pour le montage de cette scène. Cette scène, elle a d'abord été montée sur un scherzo de Mendelssohn. Le Danube bleu est arrivé plus tard. Mais contrairement à Ainsi par les Zarathustra, le beau Danube bleu, c'est pas du tout une innovation au cinéma. J'avais essayé de faire des statistiques sur l'utilisation du beau Danube bleu au cinéma avant 2001. Oui. Et au bout de plusieurs heures, je me suis interrompu. C'est un morceau qui a été utilisé des dizaines et des dizaines de fois au cinéma avant. Il est en moyenne utilisé dans 2 films par an depuis le Parlant jusqu'à 2001. Et là, je parle des films de cinéma parce qu'il est également énormément utilisé à la télévision, dans les téléfilms, dans les séries, etc., dans les années 50 et 60. Donc c'est une scie musicale au cinéma. Et 2001 n'est pas le premier film à en faire une utilisation, on va dire, un petit peu ironique. Je pense notamment au Salaire de la peur, dans lequel il y a une scène finale où cette musique accompagne le dénouement tragique du film. Oui. Et où il apporte également un contrepoint ironique. Oui. Voilà, juste pour nuancer, il est vrai que l'utilisation de cette musique sur cette scène, c'est l'une des choses du film qui a été le plus commentée. Le paradoxe, c'est que ça n'était pas extraordinairement original d'utiliser cette musique-là. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Kubrick s'est dit, ça serait peut-être rigolo d'utiliser ça à ce moment-là. Et d'ailleurs, il a dit à ses collaborateurs, est-ce que ça serait complètement idiot ou est-ce que ça serait génial? Et finalement, il s'est dit, allez, on va le tenter, et ça marche très très bien.
Ce qui se passe, c'est que, en fait, on n'a pas eu de musique depuis effectivement l'ouverture, donc elle surprend, et elle surprend déjà parce qu'elle arrive. Avant, on n'avait pas eu de musique extra-diégétique pendant l'aube de l'humanité, à part un petit peu de Requiem, évidemment. Bon, elle surprend parce qu'en fait, Kubrick ne voulait absolument pas utiliser de musique électronique comme ça se faisait très souvent dans la production de films de science-fiction des années 50, début 60, parce qu'il savait que ça allait vieillir et il ne voulait absolument pas qu'il n'y ait de connotation, finalement. Il voulait que son film reste intemporel. Il y a un point sur lequel je voulais aussi intervenir, c'est, parlons un peu des images, Kubrick a eu la possibilité, l'opportunité, en fait, de par l'époque de production, d'avoir accès aux premières images photographiques prises de l'espace, et du coup, à avoir une documentation qui était quand même la grande obsession de Kubrick. C'était un dingue. Il avait mis au point des systèmes de classement pour tous ses films. Enfin, c'était un fou de la doc.
Il a eu la grande chance de travailler avec Arthur C. Clarke, qui était quand même un des pionniers de l'astronautique en Angleterre, qui avait des relations très tenues avec... très forte avec la NASA, avec les gens de la NASA, avec le laboratoire Bell, aussi on va en parler plus tard. Donc il lui a ouvert des portes, et c'est pour ça qu'une grande partie de l'équipe de design, tout ça, était des ingénieurs, des designers qui travaillaient pour la NASA. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a un genre de réalisme qui est encore super impressionnant. On dirait presque que c'est un documentaire de l'époque. Quoi.
Alors que c'est de la maquette, évidemment, évidemment, il n'y a pas d'effet informatique, mais il y avait une volonté d'avoir une crédibilité de l'image, alors que pendant très longtemps, finalement, la science-fiction pouvait se satisfaire d'une vision plus onirique, plus poétique aussi peut-être, mais en tout cas moins exacte, sans que ça dérange forcément.
Ça dépend, parce que Destination Moon, par exemple, était pourtant très impliqué avec la science de l'époque des années 50. Hein, mais c'est quand même encore une... ils vont sur la Lune, mais il y a un côté... c'est la fusée de Tintin, quoi. C'est vraiment...
On est encore très loin de la cassure nette que va représenter 2001.
À l'époque, c'était quand même très, entre guillemets, réaliste. Ouais. Mais il n'y avait pas eu... voilà, il n'y avait pas eu cette implication du vérisme quoi, qui devient obsessionnel chez. Alors,
le paradoxe, c'est que pendant que le film est en production, on sait que, voilà, que les Américains vont bientôt réussir à aller sur la Lune. Et l'une des contraintes de la production, à la fois du côté de la AGM, et du côté de la MGM qui produit le film et du côté de Kubrick, c'est qu'il faut absolument que le film soit terminé avant qu'on aille sur la Lune. Ouais. Ils ont l'impression que si le film sort après, il marchera moins bien, qu'il fera moins rêver et que peut-être le film prendra un coup de vieux quand on sera allé sur la Lune et qu'il faut absolument le sortir avant. Et une deuxième chose, c'est que quand les premières photographies de la Terre prises depuis l'orbite lunaire
arrivent,
ils se sont dit, merde, notre Terre n'est pas assez bleue. Dans le film, effectivement, la Terre est d'un bleu assez pâle. Et quand les premières photos prises de la Lune sont arrivées, ils se sont aperçus que la Terre était encore plus bleue que ça.
Pour en revenir à la musique de cette partie-là, effectivement, il y a eu un conflit entre la MGM et Stanley Kubrick, qui lui avait déjà très clairement cette volonté justement d'être intemporel, de récupérer des musiques préexistantes et tout ça, et qui ont fait travailler alors que la MGM voulait vraiment, faut un compositeur qui fasse la musique complète du film comme ça, et donc ils ont fait travailler Alex North
qui a découvert sur le tard d'ailleurs que Kubrick avait bazardé complètement son travail.
C'est quand il a vu la projection du film.
À la projection du film,
personne n'avait osé.
C'est d'une cruauté.
Mais Kubrick n'avait jamais eu l'intention. Il a fait bosser North parce qu'il était obligé par la production. Mais il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser sa musique.
C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait aussi.
Ils avaient déjà travaillé sur.
La MGM n'a absolument pas obligé Kubrick à engager Alex North. C'est Kubrick qui l'a fait de sa propre initiative. Pour des raisons assez complexes, et ceux qui veulent la réponse à ces questions, je vous invite à venir en fin de journée à 18h30 au lieu unique, où pendant 1h30, je vous expliquerai non seulement toute la généalogie des musiques du film, mais où je vous projetterai de longs extraits du film avec les musiques d'Alex North. En deux mots, Kubrick a, de sa propre initiative, contacté Alex North pour lui demander une partition pour le film. L'une des raisons de ça, c'est que, d'une part, à ce moment-là, lui-même n'avait pas du tout arrêté ses choix quant aux musiques temporaires qu'il utilisait pour faire le montage. Et d'autre part, il n'était pas du tout certain d'avoir les autorisations nécessaires pour utiliser les musiques qu'il avait choisies. Il lui fallait un plan B. Le plan B, c'était une partition originale. Ce qui est vrai, c'est qu'il a très vite décidé qu'il ne l'utiliserait pas et qu'il n'a pas prévenu le compositeur. Il a découvert en salle qu'il n'y avait pas une seule note de sa musique dans le film.
En même temps, Stanley Kubrick avait quand même une idée très précise de ce qu'il voulait. Je pense qu'il avait tellement monté son film avec les bandes préexistantes comme ça qu'il s'était aussi habitué. Parce qu'il a quand même demandé à Alex North, le premier morceau, c'est quand même une pomperie d'ainsi
parler. Il ressemble beaucoup à modernisé,
mais c'est moins bien.
Ce qui est assez sidérant également dans ces séquences, et alors bon, moi j'ai l'impression que c'est aussi sans précédent, mais je me trompe peut-être, c'est vraiment l'usage des perspectives, enfin le renversement total des perspectives dans certains plans, comme celui-là par exemple, qui est un plan qui est filmé de l'intérieur de la station spatiale dont s'approche la navette commerciale. Et à chaque fois qu'on revoit le film, enfin moi je me rappelle que la première fois où j'ai vu le film, bon c'était sur un petit écran, c'était à la télé aussi, et j'avais jamais remarqué les bons hommes aux quatre coins de l'écran.
C'est pour ça qu'il faut le voir en 70 mm.
Exactement.
Là vous voyez chacun des trucs, c'est absolument incroyable. Bon, il y a une vraie préoccupation, c'est ça qui est vraiment fascinant.
Il n'y a pas d'image numérique, il n'y a rien. Ce sont des effets pratiques.
Il y a une vraie réflexion, c'est ça qui m'a fasciné dans le film et dans la mise en scène de Stanley Kubrick, c'est qu'il y a une vraie réflexion. On est dans l'espace, donc on est en apesanteur. Le haut et le bas n'ont plus autant d'importance que ça. Il y a des plans qui sont incroyables où on passe de la tête en haut à la tête en bas, des choses comme ça. Et la lenteur dont tu parlais aussi est faite que quand on est dans l'espace, tout est lent. Les forces d'inertie sont vraiment... Donc il y a une vraie réflexion. Il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de son, normalement, dans l'espace. Et il va en jouer après d'une manière absolument extraordinaire. Il y a ces plans là. C'est le premier à se préoccuper de comment on fait pipi.
Comment on va au cabinet, aux toilettes, dans l'espace.
Donc c'est quand même.
Est-ce que vous avez essayé de lire toutes les. Vous faites partie des gens qui ont essayé de lire toutes les consignes.
Oui.
Oui.
Voilà. Pardon pour cette petite parenthèse.
Bien, alors, c'est important de montrer ce plan parce que il y a des détracteurs de Kubrick à partir de 2001 qui passent à côté de tout l'humour qu'il peut y avoir dans ce film.
Oui.
Il n'y en a pas énormément, mais il y en a régulièrement. Ça, c'est un gag de façon évidente, mais au-delà de ce gag précis, il y a un certain nombre de clins d'œil, d'ironie tout au long du film, et qui ont contribué à en faire un film assez joyeux, assez optimiste.
En même temps, il y a un sérieux là-dedans. D'abord, pour la question est d'importance. Ensuite, finalement, on est en train de... Kubrick rappelle, et c'est quelque chose qui est assez obsessionnel chez lui, la nature vraiment purement biologique de l'être humain. Et il faut le montrer là, parce que finalement, avec la métamorphose finale du fœtus spatial, où là, on arrive finalement à une autre dimension, là, il faut montrer que il y a une finitude, on est encore dans une étape qui nécessite une réelle transformation.
Et il y a une autre dimension aussi qui est absolument incroyable, c'est que vous le voyez, il va juste un peu plus tard, là, il va aller appeler sa femme et il va tomber sur sa fille. Et tout ça, c'est ce qu'on vit maintenant. C'est du Skype avant la lettre. Il a même sa carte pour payer son abonnement et tout ça. Il y a plein de choses comme ça. À un moment après, il y a des journalistes qui viennent le filmer. Vous voyez les petites caméras qu'ils ont. C'est un iPhone, quoi, presque. C'est des gens de... Bon, ou en tout cas, les petites caméras qu'on a. Ouais. Quoi,
et là aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup d'ironie dans ce petit moment-là, justement, où on voit une espèce de chargé de communication ou un journaliste, on ne sait pas trop, qui filme la rencontre.
Tout à fait.
Il a une sorte de pantomime un petit peu ridicule. Et justement, l'un des autres aspects marquants du film, et qui a été reproché d'ailleurs à Kubrick par ceux qui n'ont pas peut-être lu entre les lignes des intentions du réalisateur, c'est la grande platitude, banalité apparente des dialogues dans le film et le très peu de la faible émotion convoyée par les êtres humains lorsqu'ils se parlent entre eux.
Ah mais
ce passage est caractéristique.
Le seul personnage du film, le seul qui a une psychologie, c'est Hal.
Ouais.
Les
qui
autres,
des sentiments,
c'est le seul qui ait des réactions inattendues. Ouais. Effectivement.
Et c'est vrai qu'un échange comme celui-là entre Heywood Floyd et sa petite fille. Il est presque embarrassant.
Qui est la fille de Kubrick.
Mais c'est réaliste. Moi, ça m'a toujours fait ça. Parce qu'il avait déjà fait des choses comme ça dans Docteur Follamour, par exemple, quand le président des États-Unis appelle le président de la Russie là, pour essayer de calmer un peu le jeu, tout ça. L'autre est complètement ivre. Et la manière. Pourtant, c'est presque absurde leur dialogue, mais en même temps, on se dit que c'est presque réaliste. Comment il essaye de... Non, mais Dimitri, calme-toi, tout va bien. Enfin, tu dis, c'est presque réaliste. Il pousse ça juste un peu le curseur comme ça, et c'est incroyable. Quoi.
On parlait des révolutions du film, un tout petit mot rapidement, parce que un tout petit mot sur l'aspect politique, puisque le film décrit quand même un monde, un futur, où visiblement les États-Unis et l'Union soviétique se sont réconciliés. Les deux nations ont des bases sur la Lune. Là, on voit dans cette scène, là aussi, avec un dialogue très, très au ras des pâquerettes, hein, une conversation entre Heywood Floyd, qui représente donc les États-Unis, la NASA, et des homologues russes. Est-ce que ça, là aussi, c'était audacieux, non, de la part de Kubrick? On est en 68, c'est l'année du printemps de Prague. Est-ce que c'était pas audacieux, quelque part, et aussi révolutionnaire de la part de Kubrick d'oser montrer ça alors qu'on est en pleine guerre froide?
Moi, je n'ai pas vécu cette époque, alors c'est difficile d'en parler, mais il me semble que pour un scénariste qui essaye de se projeter dans l'avenir, même quand on écrit pendant la guerre froide, bon, toute guerre a une fin, ça pouvait quand même être plus intéressant d'imaginer un monde où les choses sont un petit peu différentes.
Par contre, il n'avait pas du tout anticipé que, par exemple, la Chine allait avoir ses taïkonautes ou que l'Inde allait avoir aussi sa volonté d'aller dans l'espace, etc.
Non, mais je crois qu'il faut quand même redire une chose que les amateurs de science-fiction savent, mais la science-fiction n'est pas là pour prédire l'avenir. Auteurs de science-fiction, la qualité d'une œuvre de science-fiction ne se mesure pas à la hauteur des prédictions qui se seraient éventuellement réalisées. Donc 2001 rate un certain nombre de choses. Déjà, le titre même du film nous rappelle que quelque chose n'a pas fonctionné parce que 2001 n'a pas du tout ressemblé à 2001.
Et on en
2018
est bien triste.
Ne ressemble toujours pas à 2001. C'est pas grave.
Bon, alors je suis obligé d'avancer un petit peu parce que le temps file, il nous reste déjà plus qu'un quart d'heure. HAL 9000, on l'a un peu évoqué. Olivier, en quoi HAL est si unique, finalement, est une intelligence artificielle si singulière dans l'histoire du cinéma et dans ce qu'en a montré Kubrick?
Alors, clairement, sur un point, c'est que on va encore parler du son. très souvent, on a affublé les robots et intelligences artificielles de voix nasillardes qui faisaient immédiatement synthétique. Là, non, et même le choix de la voix a été, s'est porté sur un accent très anglais, finalement. Cette voix est très, d'autant importante que, finalement, quand on cadre l'œil de HAL, enfin l'objectif fisheye, quoi, on le cadre comme si c'était un personnage. Et on a même après des subjectifs de HAL sur l'ensemble du vaisseau, avec la déformation typique des hyper grands angulaires, voilà, donc le fisheye typique, donc qui ne fait même pas une image carrée, enfin la couverture de l'objectif est inférieure au cadre, quoi.
Oui, et alors, ça représente sa vision, quoi, il est circulaire.
C'est vraiment un subjectif complet. Et en fait, on est en train de travailler avec du champ contre champ, bon, certes à 180 degrés, mais on est en train de présenter HAL dans la mise en scène comme un personnage à part entière, ce qu'il est.
Et l'interprétation de l'acteur qui fait la voix de HAL, Douglas Rain, si je ne m'abuse, là aussi, elle est, par rapport à toutes les autres interprétations des acteurs dans le film, c'est la plus poignante. La plus humaine. Et là aussi, il y a vraiment un parti pris, une intention très claire de Kubrick.
Il y a un petit écart entre la voix, quand même, qui reste malgré tout extrêmement égale et toujours douce du début à la fin de l'acteur, et les situations qui sont jouées, et jusqu'à l'agonie de l'ordinateur pendant laquelle il garde le même ton, même dans ces affrontements verbaux qui sont assez violents dans leur contenu avec les astronautes.
Il a presque un rôle de psychothérapeute. Hein. Il a ce genre de côté complètement hypnotique, comme ça, calmez-vous, tout va bien. Même quand il va...
Assez trompeur. Hein,
voilà, quoi, c'est vraiment super flippant. Oui,
hein. Il explique, je vous assure que tout va rentrer dans l'ordre.
La seule scène vraiment en termes de voix qui est, je trouve, toujours un peu poignante, surtout qu'en plus, il y a la musique de Gaël Ballet de Khatchaturian par-dessus, c'est la scène où la famille souhaite un bon anniversaire.
Alors, c'est d'une tristesse infinie.
Elle est extraordinaire, il y a une nostalgie dedans, mais la réaction
de
l'intéressé, est extrêmement neutre. Il est déjà déconnecté, finalement, de cet univers. Et puis, il y a HAL qui presque donne la charge finale en disant « Bon anniversaire ». Et d'une voix extrêmement neutre, et il le remercie, alors qu'il n'a pas pu remercier même ses propres parents, puisque en fait c'est une transmission différée.
Bah, il faut dire que ses parents... décalage. Alors en français, ouais. C'était François Chaumette qui avait fait la voix.
La voix de Franck Poul, du personnage
de, Carl, de l'ordinateur.
Ah, de l'ordinateur.
Pardon. De l'ordinateur.
François Chaumette qui a également fait la voix de Dark Vador dans le premier Star Wars.
Ah oui, en effet. C'est intéressant ce passage, justement, et cette tristesse, je trouve, qui se dégage de cette scène, et le son du c'est le ballet Gaïanais de Khatchaturian, qui illustre toutes ces scènes-là, parce qu'on parle souvent au sujet de 2001 d'un film assez optimiste, avec une vision plutôt... Oui, plutôt optimiste, plutôt radieuse du futur, avec des avancées technologiques absolument fabuleuses. Mais à côté de ça, il y a cette absence de sens total, cette solitude de ces deux hommes à bord du Discovery en voyage vers Jupiter, et qui est renforcée par cette musique-là. Et là encore, on a vraiment un rôle de la musique qui est fondamental pour illustrer cette solitude.
Alors, c'est assez rigolo parce que là aussi, il y a encore une petite différence entre le film ce qui va se passer et le roman. Parce que dans le roman, après, le survivant, là, Bowman, va rester tout seul pour aller jusqu'à Saturne. Et comme il est tout seul, il va mettre la musique très forte dans tout le vaisseau pour... faire passer sa solitude, quoi.
Oui, d'ailleurs, tu disais Saturne. Au départ, pour le film, ils voulaient vraiment mettre Saturne. Ouais. Et puis, ils se sont aperçus qu'ils avaient quand même de gros problèmes de représentation des anneaux. Ouais. Ça ne passait pas au niveau technique. Ouais. Donc, du coup, ils ont changé pour Jupiter.
Oui, voilà. Oui, c'était Iapète. C'était un satellite de Saturne, normalement.
J'en profite pour, parce qu'on m'a demandé de passer la consigne et elle est tout à fait justifiée. À 13h45 aujourd'hui, si vous êtes davantage intéressé par l'aspect technique et toutes les révolutions techniques introduites par 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a le documentaire sur Douglas Trumbull qui s'appelle Trumbulland.
Voilà, fait par Greg Wallet qui est peut-être dans la salle et tout ça, c'est vraiment
un très beau documentaire.
Un super documentaire et qui montre aussi tout ce qu'a fait après Trumbull. Hein, parce
qu'il
a débuté avec 2001, mais après. On lui doit pas mal de choses pour Blade Runner, pour les grands classiques, pour Star Wars, etc.
Type.
Voilà, tout ça. Ouais. Donc,
ce qui est intéressant avec le film aussi, c'est qu'il évolue très rapidement vers. Il y a une partie thriller, quand même, à partir du moment où HAL 9000 décide de se débarrasser de l'équipage de Discovery, puisqu'il a lu sur la bouche des. Après avoir fait une première erreur de diagnostic sur une antenne. Bowman et Lockwood décident qu'il faudrait le désactiver. Il surprend leur conversation avec cette fameuse scène où il lit sur leurs lèvres. Et il décide ensuite, HAL 9000 décide ensuite de se débarrasser des hommes.
Mais le meurtre est en fait quelque chose de très important dans le film. À l'aube de l'humanité, l'outil os qui permet de pouvoir enfin se nourrir permet aussi de buter la tribu d'en face pour avoir le point d'eau. Là, on se retrouve avec un autre outil, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, qui va elle-même devenir meurtrière. Et à chaque fois, et c'est assez dérangeant, évidemment, on s'aperçoit que ça se situe à des moments tournants, comme si finalement le meurtre était une nécessité d'évolution.
L'humain devient humain quand il apprend à s'entretuer. Hein. C'est ça aussi que dit le film.
Nous n'appelons pas.
Ce n'est pas une invitation. Nous sommes bien d'accord.
Bah, il est clairement, c'est aussi dans le roman, il est clairement spécifié qu'il est devenu psychotique. Hein, comme lui, il a un secret qu'il ne peut pas dévoiler, c'est un peu plus explicite dans le roman. C'est ça qui fait. Devenir l'ordinateur fou. Hein, donc,
Bon, le temps passe très vite.
Alors, il faudrait finir quand même sur. Il y a un autre aspect encore au niveau du son, c'est la voix de HAL quand il meurt. Parce que là, c'est aussi une idée de Arthur C. Clarke et pas de Stanley Kubrick, qui était très en relation avec le laboratoire Bell, avec John Pierce et tous les gens qui expérimentaient au niveau de la synthèse vocale et tout ça. Et c'est là que lui est venue cette idée de faire cette voix qui ralentit et qui chante cette chanson que lui a donnée son instructeur.
On est vraiment là, là aussi dans un moment d'émotion du film. Qui est important pour vous, Olivier, la mort de HAL, cette mort lente, cette agonie.
C'est une scène qui est extraordinaire parce que, d'abord, on est dans le ventre du vaisseau. Là, on est en train de tuer l'enfant de l'humanité, l'enfant technologique, en étant à l'intérieur. Et puis, j'ai toujours été fasciné par cette idée formidable, encore une fois, de ne pas vouloir être explicite concernant les technologies utilisées grâce à l'emploi de petits cubes de plexiglas qui sortent les uns après les autres pour peu qu'on les déverrouille avec une clé. C'est malin parce qu'encore une fois on réussit à déconnecter le public d'une sorte d'identification technologique qui le ramènerait à une quotidienneté.
Surtout qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était des armoires, hein, des grosses armoires avec des.
Bon, on pourrait faire toute une table ronde, rien que sur la séquence évidemment mythique de la Porte des Étoiles, qui a visuellement été en partie donc réglée par Douglas Trumbull, dont nous parlions tout à l'heure, avec sa fameuse technologie du slit scan. Est-ce qu'il y a un commentaire particulier sur cette. Sur cette expérience, là encore, sans précédent, visuellement et auditivement.
Visuellement, c'est une séquence qui a vraiment permis à toute une génération de se dire « Ouais, c'est génial, on dirait du LSD ». Mais enfin, bon, à part ça, Elle est très inspirée de certaines expérimentations, qui, notamment des films de John et James Whitney, par exemple, qui ont cherché, surtout James Whitney, qui ont cherché en fait à transposer une espèce d'effet de mandala, de voyage spirituel à l'écran, généralement d'ailleurs sans forcément l'ajout de son, uniquement par la création dynamique à partir d'images totalement non figuratives, pour éviter de dire abstrait. Donc c'était dans la mouvance du cinéma expérimental depuis la fin des années 50, mais ça a surtout explosé dans les années 60. Donc là, Kubrick, qui se tient au courant, fait son marché, il pioche comme
oui,
tout créateur qui se respecte.
Il avait été un genre de grand salon là, d'exposition universelle, je sais plus. Voilà, où il avait été voir, il avait vu, on lui avait montré quelques films comme ça expérimentaux et tout, avec les trucs, tu sais, avec des taches d'encre dans de l'huile, film au ralenti, des choses comme ça. Et il exploite tout ça, toutes les solarisations aussi. Voilà, il était très au fait de tout ce qui se faisait. Hein. Kubrick, c'était vraiment sa grande particularité. Quand il s'intéressait à un sujet, il avait tout dessus. Il avait un côté comme ça complètement compulsif et exhaustif. Il y avait une expo à la Cinémathèque où il a eu un projet sur Napoléon. Il y avait des caisses entières avec tout ce qui peut exister sur Napoléon. Hein, donc,
Alors, bon, il est déjà 10h25, il y avait encore tellement de choses à dire, évidemment, sur l'épilogue du film. Il faudrait quand même laisser quelques minutes pour des questions dans le public. Ça nous permettra peut-être d'aborder en même temps cet épilogue. Si jamais parmi vous, certains souhaitent poser des questions à nos trois intervenants sur le film, n'hésitez pas à lever la main. Je vois un monsieur là-bas avec une splendide chemise.
Bonjour. J'avais une question par rapport au film sur la fin, justement, que vous avez parlé au
Parfait,
début.
Parfait, ça tombe très bien.
C'est la chambre toute blanche où il y a le vieil homme qui est couché. Et donc, moi, j'ai toujours eu un problème là quand j'ai vu ce film, et je voulais savoir si vous, en tant qu'expert, avez une réponse par rapport à cette séquence-là qui me laisse perplexe.
Alors, la réponse moi que je vais donner, c'est pas une réponse d'expert, c'est une réponse qui est faite par Kubrick et Clark eux-mêmes. C'est relativement clair quand on lit le roman et quand on lit les travaux sur le scénario. Ce qu'ils ont imaginé, c'est qu'à partir du moment où l'être humain, l'astronaute, arrive dans cet endroit, il est accueilli par des entités extraterrestres et qui ont décidé de lui construire un environnement dans lequel ils vont pouvoir l'installer. Donc c'est une sorte de petit zoo. Ils se sont documentés, donc ils ont reproduit une chambre qui ressemble à ce qu'ils connaissent de l'environnement humain, et ils l'installent là. Voilà, c'est, en tout cas, la signification de ce décor, elle est celle-là. Ensuite, pour ce qui est...
Ils ne se sont pas trop foutus de sa gueule, hein, quand même, parce que c'est quand même... Les meubles sont sympas, c'est pas...
C'est chicot, ça. Oui. Ouais.
Moi, c'est le sol, je trouve assez vilain, mais bon, ça n'engage que moi.
Ça, c'est un truc, un truc technique. Le sol est éclairé par en dessous, c'est pour créer cette ambiance complètement abstraite, quoi.
Oui, et puis avoir une lumière extrêmement égale.
Voilà, tout à fait. C'est une boîte à lumière, hein, son truc.
Oui, c'est ça. Et en même temps, ceci dit, comme on a assez rarement l'occasion de voir des lumières qui viennent d'en dessous, même sur des visages, l'effet est... Ouais. Généralement catastrophique et utilisé dans le film fantastique justement pour cette raison, mais même sur des meubles, on inverse la logique de l'arrivée de lumière et du coup on amène quand même une étrangeté qui n'est pas forcément consciemment perceptible.
Le naturel implique un éclairage zénital, hein, comme ça. Et là, forcément, dès que c'est par en dessous, on est dans un autre monde, quoi.
Est-ce qu'il y a une autre question ? On a encore le temps pour une ou deux questions. Bonjour madame.
Bonjour. Pour les acteurs, est-ce que ce film aussi a été une nouvelle expérience ? Est-ce qu'il y a des retours ?
Alors, les deux acteurs n'ont pas eu une grande carrière. Hein, moi, j'ai croisé une fois Kier du Lait. Et là, il a pas fait.
Il a fait des carrières au théâtre.
Au théâtre, ouais. Mais au cinéma, il a pas fait grand-chose. Il avait fait un autre super film, The Missing, je sais plus quoi là.
Oui, mais Kubrick l'avait repéré dans un autre film avant. Mais
et l'autre, Gary Lockwood, il a fait des trucs à la télé, il a joué dans Star Trek, des choses comme ça, mais il n'a pas non plus fait une grande, grande carrière.
Non, non, même William Sylvester, qui incarne le rôle de David Floyd, n'a pas eu une carrière particulièrement notable après le film. Hein, donc, mais enfin, Kerr Dully, qui joue le rôle de Dave Bowman, reste encore, enfin, il continue ma foi, parce qu'il est passé au il a été invité du Festival de Cannes cette année pour les 50 ans de 2001 et les gens le reconnaissent toujours, il a assez peu changé physiquement, c'est assez frappant hein.
Il ressemble un peu 50 ans après le film, au dernier plan là.
Oui. Alors mais dans quelques années ça sera un fœtus spatial.
Y a-t-il encore une question? Oui.
Alors j'avais une question. C'est, est-ce qu'on sait si c'était voulu par, par Kubrick et Clarke que les lettres de HAL, H-A-L, dans l'alphabet, c'était juste avant les lettres de IBM?
Je crois que c'est une fausse légende, ça.
Alors, on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Eux ont constamment répété que c'était fortuit. J'en doute un peu, mais ils n'ont pas avoué
leurs
méfaits.
Leurs avocats leur ont dit non. Vous niez.
Vous ne savez rien. Une question devant. Moi, je sais pas, tant qu'on ne me dit pas couper, ça suffit. Je continue.
Après, s'il y avait une question de quelqu'un qui n'aime pas du tout le film, ça serait intéressant.
Bonjour.
Vous croyez qu'il serait resté jusqu'au bout?
Bonjour. Donc, à propos de lettres, je voudrais savoir la signification des lettres qui apparaissent dans le vaisseau en route vers Jupiter.
Les inscriptions qu'on voit sur les écrans vidéo, etc.
Oui.
Oh mon Dieu. Il faudrait les étudier une par une. Très souvent, ce sont des abréviations ou des sigles. Par exemple, il y a un NUC qui doit vouloir dire nucléaire.
Des acronymes, souvent.
Ce sont des inscriptions techniques qui font référence aux différents dispositifs du vaisseau qui sont en fonctionnement. Je pense que tout a une signification, mais ce n'est pas fondamental dans la compréhension du film. Mais ça désigne les différents dispositifs qui font fonctionner le vaisseau. Oui, il y a COM pour la communication.
Concernant le design intérieur de 2001, et notamment dans le Discovery, il faut se dire que, bon, bien sûr, cette architecture intérieure est assez novatrice, mais néanmoins, il y a eu quand même des modèles d'inspiration. Il y a eu notamment en 1963 un film tchèque de Vindrich Polak qui s'appelle Ikari XB1, qu'il faut vraiment voir dans la version de montage d'origine, parce que pendant très longtemps, on a eu l'américaine qui, avec une fin complètement fausse, enfin, complètement transformée. Et alors, dedans, clairement, en termes d'éclairage, en termes de cadre et en termes de design, on a déjà en germe ce que va être... ce qui va être développé dans 2001 et même dans Alien.
Il y a un film aussi de russe de Kazantchev où Kubrick disait qu'il avait quand même vraiment bien vu et s'est inspiré de certains trucs pour les trucs en apesanteur, etc. Et c'est vrai que là on n'a pas eu le temps de parler, mais au niveau de décor, moi qui suis très sensible à ça dans mon cinéma, là ils ont créé un décor qui tournait là, quand on voit les making-of et tout ça, c'est une cinglerie complète. Hein, c'est vraiment c'est incroyable avec la caméra fixe pour qu'on suive. C'était vraiment à tous les niveaux, au niveau des objectifs, il a récupéré des objectifs de la NASA. Enfin, à tous les niveaux, au niveau de la technologie, il a tout le temps été passionné par. Par le matériel, et puis de comment faire et comment essayer de tendre vers la perfection. Donc, c'est incroyable.
La séquence à l'aube de l'humanité avec le décor de la savane qui est en fait une projection frontale, mais comme les négatifs, si ce n'était pas suffisant pour avoir une bonne qualité, ils ont fabriqué un projecteur de diapo 18-24, enfin de chambre, quoi, pour balancer un ecta direct sur le. L'ensemble du décor, enfin, c'est
l'illusion absolument parfaite. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On est obligé, hélas, de rendre l'antenne. Vraiment, merci beaucoup à Marc Caro, à Olivier Cotte et à Hervé Delahaye. Vraiment, merci.